Il comprend à peu près tout ce qu'il dit. Richard Courchesne, le retour de Courchesne. 95.7 Kick.
Il est presque 16h24 minutes. Maître Bouliane est dans nos studios avec son assistante, Maître Maëlie Bouliane. Quel âge a-t-elle?
8 ans,
OK. Pour l'instant, elle est trop gênée, mais à la fin, on va essayer de se faire dire bonjour, au moins, dans le micro. Alors, on va passer sur une note plus sérieuse. On va parler de cet homme d'une cinquantaine d'années qui a été arrêté pour une histoire de complot et de menace. Ça se passait donc hier soir du côté de Saint-Ambroise. Est-ce que c'est grave de demander, mettons, je dis à PA, là, va donc régler le compte à Maître Bouliane, là, on dirait que ça fait plus, là, depuis qu'il est allé en Russie, là. Va sur son terrain, là, met le feu dans son cabanon. C'est grave de commander un acte de la sorte à un ami?
Oui, à ce moment-là, par contre, il n'y a pas de complot. Il n'y a pas eu d'accusation de complot. D'ailleurs, à la lecture même de l'article, c'est drôle que les policiers mentionnaient que l'individu aurait demandé à cette dame-là de mettre le feu au véhicule ou à, je sais pas trop, au domicile de son ex-conjointe et que cette dame-là a refusé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'il y ait complot, oui, il doit y avoir entente. Ah. Si un des deux refuse, il n'y a pas de complot. Et c'est beaucoup plus qu'on tombe à ce moment-là dans des crimes de menace. Et dépendamment jusqu'où on est avancé dans notre plan, il pourrait y avoir des tentatives de notre part de commettre des infractions, d'avoir tenté de convaincre quelqu'un de le faire. Mais s'il n'y a pas d'entente entre les deux, il n'y a pas de complot finalement qui se serait fait. Donc, il n'y a pas eu d'accusation de complot dans ce cas-ci. C'est un crime de menace qui a été porté et également de voie de fait parce qu'il y aurait supposément, évidemment, on ne se fie qu'à la déclaration de la victime. Mais ce qu'elle prétend, elle, c'est qu'il y aurait une arme à feu, qui est une arme à plomb, les fameuses armes à plomb, on les voit trop souvent. Les gens pensent que parce que c'est en vente libre, chez tous les magasins de chasse et pêche ou de Canadian Tire de ce monde, à 35-40$, on peut acheter à peu près toutes les formes là, de bonbonnes de CO2 et qui tirent des plombs, etc. C'est considéré pour la plupart des infractions au code criminel qui visent les armes à feu. Exemple, si vous faites un vol qualifié dans le crime de braquer une arme à feu ou d'avoir utilisé une arme à feu dans le cadre d'une infraction. Donc, si vous menacez quelqu'un et que vous le pointez avec une arme à plomb, même si pour vous, c'est pas une arme à feu au sens commun du terme, là, dans le sens que vous n'avez pas besoin de passer vos permis d'acquisition, puis vous n'êtes pas obligé d'enregistrer ces armes-là, ce sont des armes à feu au sens du code criminel, et ça fait en sorte qu'il y a des peines minimales dans la plupart des cas. Comme c'est le cas dans ce cas-ci, s'il était reconnu coupable d'avoir menacé quelqu'un en utilisant une arme à feu, il y a une peine minimale d'un an d'incarcération. Donc souvent, c'est pas banal. Les gens même pourraient, je reprends le même terme, c'est-à-dire pourraient banaliser le fait justement que c'était juste une arme à plomb. Mais comme on rentre dans la définition d'arme à feu, qui est à dire quelque chose qui est conçu pour tirer un projectile et qui peut causer des lésions corporelles, ça constitue une arme à feu au sens du code criminel, et il y a des peines minimales dans la plupart des cas.
On va parler du dossier de Chantal Dallaire, qui est un drôle de pistolet. J'aime ça, cette expression-là, drôle de pistolet. C'est une expression qui date de 1900, fait plus. Il est arrivé au palais de justice de Chicoutimi. Il a insulté les photographes. Il a salué ses amis dans la salle du tribunal. Il a dénoncé le travail des policiers, puis pas à peu près. Il a dit, entre autres, il dit, j'ai pas le choix vraiment, même si le gros chien, en parlant de l'agent, a écrasé mes cigares de Cuba. Donc, cet homme-là n'a pas fait quelque chose d'extrêmement grave, mais il a consommé sur la voie publique et il prend le chemin de la prison.
Effectivement. C'est un individu que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu au palais de justice, mais qu'on avait vu pendant une certaine période assez régulièrement. Ce qui fait en sorte qu'il y a une certaine feuille de route. Donc, pris isolément, les infractions pour lesquelles on lui reprochait cette fois-ci, pour lesquelles il était accusé et pour lesquelles il a comparu détenu, n'étaient pas dans les plus graves. Mais, comme c'est dans le cas, dans plusieurs personnes qui sont pris pour un vol à l'étalage, si c'est votre premier, vous risquez même de ne pas être accusé. Si c'est votre deuxième, vous risquez d'avoir une amende. Mais il y en a qui font de la grosse prison pour un simple vol à l'étalage de quelque chose de 5, 10, 15, 20 $. Donc, dépendamment de votre feuille de route et dépendamment de vos antécédents judiciaires, des gestes qui pourraient être banals pour quelqu'un qui est à sa première offense peuvent faire en sorte que vous vous retrouvez derrière les barreaux, comme c'est le cas de M. Dallaire. Effectivement, il a été condamné à 60 jours de détention pour des infractions qu'on pourrait considérer de mineures. Il a donné un certain spectacle en salle de cours. La juge l'a laissé aller. Dans certains cas, les juges vont intervenir très rapidement, puis c'est quelque chose dont il y a un respect très important dans les salles de cours. Il y a un décorum, etc. Mais comme M. Dallaire, comme vous l'avez dit, un peu un personnage, là, il faisait en boutade, puis il s'exprimait, puis les gens avaient même tous un sourire en coin. J'étais présent dans la salle de cours, et même la juge l'a laissé aller un peu en disant, OK, c'est beau, on a compris M. Dallaire. Okay. Des comportements qui, normalement, n'auraient pas été tolérés, l'ont été parce qu'on avait affaire à quelqu'un qui a un certain charisme à travers sa façon de s'exprimer. Puis c'est quelqu'un qui donne un show carrément dans la salle de cour.
Est-ce que ça peut venir dans la sentence d'aller traiter les policiers de gros chiens sales, puis ci, puis ça?
Absolument. Clairement. Oui? Okay. Clairement. Là, il y avait une suggestion commune. Une suggestion commune lorsqu'il y a une entente entre la défense puis la poursuite, à moins que cette suggestion-là soit déraisonnable, les tribunaux vont les suivre. Donc, dans ce cas-ci, il y avait plus ou moins de risques, parce que même si vous déconnez finalement puis vous empirez votre situation en tenant des propos en salle d'audience, ça ne ferait pas en sorte nécessairement que la suggestion devienne déraisonnable. Mais lorsqu'on fait des représentations sur la peine, on ne s'entend pas. Moi, avec la poursuite, là, si j'essaie de négocier, si on ne s'entend pas, ben lui, il pète ce qu'il veut, puis moi, je plaide ce que je veux.
Okay.
Dans ces cas-là, c'est très important le comportement que peuvent avoir nos clients s'ils ont de l'air repentants, s'ils ont de l'air à regretter, puis s'ils ont de l'air à s'être amendé, puis à avoir des bonnes intentions pour la suite, versus quelqu'un qui plaide coupable, mais qui au final dit que c'est de la faute de la victime, puis envoie chier à peu près tout le monde, puis veut rien savoir, puis on a l'impression que de toute façon, il n'y a rien qui lui colle à la peau au niveau de la sentence, ça risque de faire en sorte d'augmenter, ou à tout le moins de mettre le juge à dos, là, pour reprendre une expression populaire, de que le juge se fasse, OK, on a vraiment affaire à quelqu'un qui veut rien comprendre, qui veut rien reconnaître malgré le fait qu'il a plaidé coupable ou qu'il a été reconnu coupable devant moi. Et oui, ça risque d'influencer les décisions. Faut pas l'oublier, hein? Les juges sont des humains. Ouais. Et s'il y a quelqu'un qui nous envoie chier ou qui envoie chier tout le monde, c'est rare qu'on a l'intention de lui donner un break.
OK, on va parler de cette histoire du pasteur de l'église Parole de vie. On est dans le secteur de Vanier, on est à Québec. Il a été incarcéré après avoir été déclaré coupable samedi d'agression sexuelle, de menaces et de voies de fait sur une femme. Et d'ailleurs, les agressions ont commencé alors que cette femme-là était âgée de 14 ans. Et lui, dans sa tête, il n'a rien fait. Il veut continuer à prêcher. Il y a même eu un témoignage là, de ses, des gens qui assistent à ses séances, comme de quoi on pense que c'est un complot. Et là, il demande d'être libéré. On dit, du côté de la défense, sa libération ne minerait pas la confiance du public. Moi, j'ai suivi cette histoire-là à distance et j'aimerais qu'on revienne sur cette notion-là de confiance du public, alors que cet homme-là a été acquitté. Il a profité, il était dans une situation de pouvoir aussi, il en a profité pour abuser d'une jeune mineure. J'ai de la misère à voir comment la confiance du public ne pourrait pas être minée s'il était relâché.
Effectivement. On va, mettons, y aller étape par étape. Si vous êtes arrêté, accusé pour un crime, vous comparaissez, vous avez le droit constitutionnel à une remise en liberté assortie de conditions raisonnables, d'un cautionnement raisonnable. Ce qui fait en sorte que, à cette étape-là, les juges devront évaluer trois critères. Essentiellement, le risque de fuite, le risque de récidive et le fameux « ne pas nuire à l'intérêt public ». Ça aussi, ça doit avoir une analyse, mais tout ça en toile de fond, la fameuse présomption d'innocence.
Okay.
Dans ce cas-ci, il est en liberté en cours de procès. Vous l'avez dit, il y a 2-3 jours, il a été déclaré coupable devant un jury. À ce moment-là, le juge du procès, bien que l'individu avait été en liberté, il a dit « En attendant les représentations sur la peine, je vous détiens. » Justement pour ne pas miner la confiance du public qui se dirait « Écoutez, là, il n'y avait plus de présomption d'innocence. Je peux croire en attendant les procédures. Je veux bien qu'on donne la chance au coureur avec les présomptions d'innocence qui reste en liberté. Mais maintenant qu'il est coupable, en attendant sa peine, comme on sait que ça va être la détention qui va être demandée, on demande à ce qu'il... » C'est la poursuite qui disait ça. « On demande à ce qu'il soit incarcéré.
Mm-hmm. »
Justement pour ne pas nuire à l'opinion publique et dans la considération qu'a le public envers l'administration de la justice.
Okay.
Immédiatement, la défense est allée en appel du verdict. Donc, on n'a même pas eu la peine, on n'a même pas fait les représentations sur la peine. Immédiatement, on dépose un appel sur le verdict du jury et on demande à la cour d'appel de le remettre en liberté. Et là, c'est une autre audition qui a eu lieu aujourd'hui. Donc, malgré le fait qu'on a sans doute fait ces mêmes représentations-là devant le juge du procès qui a décidé de le garder détenu maintenant qu'il a été déclaré coupable, on s'en va dire à la cour d'appel, et là, il y a 3 critères. On doit dire que notre appel n'est pas futile, que notre client va respecter les conditions de remise en liberté. Dans ce cas-ci, c'est souvent pas là-dessus que ça va jouer, parce que si votre client était en liberté, des fois, ça peut 1 an, 2 ans d'attente de procès puis qu'il n'a pas brisé ses conditions, ça, c'est facile de convaincre un juge de la cour d'appel de venir dire « ben il ne brisera pas ses conditions, il va les respecter. J'ai des bons points d'appel, les voici. » Mais encore une fois, le juge doit se pencher sur l'intérêt public, c'est-à-dire ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice. Et c'est là que tu marques un point, Richard. Maintenant qu'il est déclaré coupable. Et maintenant que le juge du procès qui a entendu tous les faits, là, le juge du procès, bien que c'est pas lui qui a rendu le verdict, parce que devant le jury, le juge des faits, c'est le juge, c'est le jury qui a décidé, mais le juge qui est là, qui est le juge du droit, le gardien du droit, lui a entendu tout ça. Et c'est lui qui va être chargé de la peine. Et lui, il se dit, après avoir entendu ce procès-là, après avoir entendu la déclaration de culpabilité, en attendant les représentations qui vont m'être faites sur qu'est-ce que ça vaut sur sentence, je décide de le détenir. Donc là, maintenant, la cour d'appel doit réviser ça, si on veut, et se poser la même question, bien que j'ai des bons motifs d'appel, s'il y en a, je ne sais pas quels sont les motifs d'appel qui ont été exposés. Bien que j'ai affaire à quelqu'un qui risque de respecter ses conditions de remise en liberté, là où, selon moi, la décision va pencher d'un côté ou de l'autre, c'est est-ce que le fait de le maintenir en détention, ça va des deux côtés, ne pas miner la confiance du public. Hein? Puis il y a certains cas où les moyens d'appel sont tellement bons ou en affaire à quelqu'un qui pourrait avoir subi une injustice à sa face même, exemple, ça serait de le garder en détention qui nuirait à l'opinion publique envers l'administration de la justice. Et dans d'autres cas, ça serait de la remise en liberté de quelqu'un qui a été déclaré coupable après un procès devant un jury qui minerait la confiance du public envers l'administration de la justice. C'est donc là-dessus que la juge de la Cour d'appel devra se pencher. Il a pris le tout en délibéré. Ça devrait pas tarder parce que lorsqu'il est en jeu la détention, donc la liberté de quelqu'un, il risque d'avoir une décision assez rapide de savoir s'il sera remis en liberté ou non. En attente de la fin de tout ça.
Maître Julien Bouliane, je vous remercie pour votre plaidoirie. J'appelle maintenant à la barre la procureure de la Couronne, Maître Maëlie Bouliane, qui va venir démolir tous les arguments de son papa. Alors, Maître Bouliane, comment allez-vous?
Bien.
Êtes-vous la meilleure future avocate au Saguenay-Lac-Saint-Jean? C'est pas.
Hein, moi, l'humilité est là quand même.
L'humilité est là. Combien vous chargez de l'heure, vous? Vous avez un choix de réponse. A, moins cher que mon papa ou B, plus cher?
Plus cher.
Merci beaucoup.
Excellente réponse.
Salut, au retour de la pause.